Vous écoutez France Culture, il est 12h30. Le journal de la rédaction vous est présenté par Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour. L'actualité de ce mardi, dominée par ce procès géant en Turquie, presque 500 personnes jugées à partir d'aujourd'hui. Elles sont suspectées d'avoir participé au coup d'État il y a un an. La crise politique se poursuit au Venezuela. Deux chefs de file de l'opposition ont été appréhendés à leur domicile cette nuit, sans doute par les services secrets. Anthony Scaramucci ne sera resté que 10 jours à son poste. Donald Trump vient de limoger son directeur de la communication en cause des propos obscènes et injurieux. Bruno Le Maire à Rome. Aujourd'hui, le ministre des Finances va tenter de faire accepter aux Italiens la prise de contrôle française des chantiers STX de Saint-Nazaire. Midi 45, la grande table d'été avec au menu Géraldine Mosna-Savoie.
Eh bien, comme tous les jours, Antoine Maret, une table ronde et un portrait. La table ronde, ce sera Ciao Italia, où ces immigrés italiens qui ont fait la France à l'occasion de l'exposition éponyme au musée de l'histoire de l'immigration. Et le portrait Hugo Bienvenu, petit prodige de l'animation à qui l'on doit récemment la BD Paiement accepté, sortie aux éditions de Noël, et la série Ant-Man pour les studios Marvel.
On vous retrouve dans 14 minutes. C'est un procès géant qui a débuté ce matin en Turquie, celui de 486 personnes. 486 personnes qui sont soupçonnées d'avoir pris part au coup d'État manqué de juillet 2016. Une tentative de putsch orchestrée depuis une base de l'armée de l'air. L'ampleur de ce procès est telle qu'une salle a été spécialement aménagée à la lisière d'Ankara. Sur place, le récit d'Alexandre Billette.
Les accusés sont si nombreux qu'un tribunal a été construit spécialement pour ces grands procès de l'après-tentative de putsch. C'est le troisième du genre qui s'ouvre aujourd'hui et c'est le plus important pour le nombre d'accusés et aussi certainement pour l'importance de leur rôle lors du coup d'État raté. Et ils sont arrivés ce matin, chacun escorté par deux gendarmes avant d'entrer à tour de rôle dans le bâtiment. Et c'est un procès qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et déjà, la présentation de l'identité et des charges retenues contre les suspects devrait se poursuivre jusqu'à demain. Et parmi les accusés aujourd'hui, des civils, mais surtout des militaires, notamment des commandants de l'armée de l'air. Et dans le box des accusés, par exemple, les pilotes qui auraient bombardé l'Assemblée nationale la nuit du 15 au 16 juillet 2016. Et tous les suspects encourent chacun des dizaines voire des centaines d'années de prison pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel ou tentative d'assassinat contre Recep Tayyip Erdogan. Et devant le tribunal d'Ankara ce matin, des centaines de manifestants se sont réunis pour réclamer la peine de mort contre les putschistes.
Au Venezuela, le président Maduro tente d'étouffer son opposition après l'élection d'une assemblée constituante contestée dimanche. Deux chefs de file de l'opposition ont été appréhendés cette nuit chez eux. Ces derniers jours, ils avaient appelé les Vénézuéliens à manifester contre le chef de l'État. Ils avaient d'ailleurs été placés en résidence surveillée. Bonjour Marie-France Abastado.
Bonjour.
Les services de renseignement seraient à l'origine de cette arrestation.
Oui, ce sont des agents du SEBIN, le service bolivarien d'intelligence nationale, qui auraient appréhendé Leopoldo López et Antonio Ledesma. Les deux hommes étaient déjà en résidence surveillée lorsqu'ils ont été arrêtés. Leurs familles ont d'ailleurs diffusé des vidéos dans lesquelles on voit la police les emmener. Mais aux dernières nouvelles, on ne savait pas où.
Alors, qui sont ces deux hommes et pourquoi étaient-ils en résidence surveillée?
Eh bien, Leopoldo López, lui, dirigeait le parti Voluntad Popular, Volonté Populaire, et avait été condamné à 14 ans de prison pour avoir participé à l'organisation d'une série de manifestations en 2014 qui avait fait plus de 40 morts. Il était en résidence surveillée depuis le début du mois dernier, après avoir passé plus de 3 ans en prison. Quant à Antonio Ledesma, il était le maire de Caracas jusqu'à son arrestation en 2015 et était accusé, lui, de corruption et d'association avec des malfaiteurs. Près de 2 ans plus tard, il n'avait toujours pas été jugé. Les deux leaders de l'opposition avaient appelé la semaine dernière les Vénézuéliens à ne pas aller voter à l'élection dimanche de l'Assemblée constituante qui ne servirait, selon eux, qu'à élargir indûment les pouvoirs du président. Au lendemain de l'élection, ils ont tous deux remis en cause l'exactitude des résultats annoncés par le Conseil national électoral, selon lequel plus de 40% des Vénézuéliens seraient allés voter. L'opposition croit plutôt qu'à peine 12% de la population serait allée aux urnes. De son côté, le président Maduro a déjà fait savoir qu'il profiterait des pouvoirs de l'Assemblée constituante pour exclure les représentants de l'opposition aux prochaines élections législatives.
Merci Marie-France Abastado. Il ne sera resté que 10 jours à son poste. Donald Trump vient de limoger son directeur de la communication. Anthony Scaramucci avait tenu des propos obscènes et injurieux, au point de choquer le président américain lui-même, pourtant peu orthodoxe dans sa communication. C'est en fait le nouveau secrétaire général de la Maison-Blanche qui a exigé le départ de Scaramucci, Valérie Crova.
John Kelly a tranché dans le vif, lui qui a pris ses fonctions en début de semaine. Cet ancien général des Marines a été nommé pour remettre de l'ordre dans l'administration Trump. Il a donc commencé en renvoyant Anthony Scaramucci, qui a défrayé la chronique la semaine dernière. Tout est parti d'un tweet d'un journaliste du New Yorker où il était question d'un dîner entre Donald Trump et un animateur de Fox News, ainsi qu'un ancien responsable de la chaîne qui soutient le président depuis son élection. Anthony Scaramucci, qui était également du dîner, a appelé le journaliste du New Yorker pour lui demander d'où il tenait l'information. Comme le journaliste ne voulait pas divulguer sa source, The Mooch, son surnom, qui veut dire « resquilleur » en argot, a menacé de virer tout le staff de la communication de la Maison-Blanche en s'en prenant particulièrement à l'ancien secrétaire général Rance Priebus, qu'il a traité de putain de schizophrène paranoïaque avant que ce dernier ne soit remercié dans la foulée. Scaramucci s'en est pris également au conseiller stratégique de Donald Trump, Steve Bannon, dans des propos particulièrement obscènes qu'il est difficile de reproduire ici. Son éviction apparaît en tout cas comme l'épilogue de ce que les médias américains ont qualifié de guerre civile dans l'aile ouest de la Maison-Blanche, là où travaillent le président et ses conseillers.
Nouvelle étape dans le bras de fer qui oppose le Qatar à ses voisins. Doha a annoncé hier une plainte déposée auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Depuis juin, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn imposent un blocus économique et diplomatique au Qatar. Ils accusent Doha de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran, leur ennemi juré. Bonjour Marina Capitaine.
Bonjour.
Alors qu'espère le pouvoir qatari en portant plainte auprès de l'OMC ?
Cette plainte, c'est sur la forme une offensive contre ce quartet arabe que Doha accuse d'avoir pris des mesures arbitraires, je cite, qui violent clairement les dispositions et conventions du droit commercial international. Mais sur le fond et affichage diplomatique mis à part, la démarche ressemble davantage à une porte ouverte sur des négociations pour tenter de sortir de cette crise du Golfe. La requête a d'une part été déposée auprès de l'organe de règlement des différends de l'OMC, dont le rôle est avant tout de mettre les acteurs d'un conflit autour d'une table et non de sanctionner. Et puis la plainte est annoncée 24 heures après un communiqué des quatre pays se disant prêts à dialoguer avec le Qatar. Le quartet a même communiqué des demandes à Doha, comme la fermeture de la chaîne de télévision Al Jazeera et aussi d'une base militaire turque.
Mais alors n'est-ce pas aussi une façon de pousser la communauté internationale à se positionner ?
Oui, pour Doha, il y a violation des lois économiques internationales. Pour le quartet, ce blocus se compose, je cite encore, d'actes de souveraineté qui n'entre en conflit avec aucune règle extérieure. Ces mesures, fermeture des frontières et de l'espace aérien, restrictions au déplacement des personnes, ont fait exploser l'unité du Conseil de coopération du Golfe. Il regroupe les monarchies pétrolières sunnites qui contrôlent le tiers des réserves mondiales de brut. Une crise inédite dont la gravité semble incompatible avec les délais de l'OMC dans son règlement des différends. L'organisation parle elle-même d'un minimum d'un an pour aboutir à un rapport, un document non contraignant.
Merci Marina Capitaine. Le gouvernement italien présente aujourd'hui au Parlement son plan de déploiement de navires militaires dans les eaux libyennes. Il s'agit d'aider les gardes-côtes libyens dans la lutte contre les trafiquants d'êtres humains. Ceux-ci profitent du chaos qui règne en Libye pour faire passer chaque année des dizaines de milliers de migrants à destination de l'Italie en échange de très importantes sommes d'argent. À Rome, la correspondance d'Antonino Gallofaro.
Le détail n'est pas encore connu, mais le plan comprendrait un ou plusieurs navires militaires italiens opérant dans les eaux territoriales libyennes, plusieurs centaines d'hommes, mais aussi des moyens aériens. Il s'agit de la réponse italienne à la demande d'aide de la Libye, mais soumise d'abord au feu vert du Parlement. Les ministres des Affaires étrangères et de la Défense présentent leur mission aujourd'hui au Sénat et à la Chambre des députés. Le détail sera ensuite débattu puis voté à partir de demain par les parlementaires. L'idée des autorités italiennes est de soutenir l'action de la Libye pour le contrôle de sa frontière maritime. Cela permettrait dans le même temps à Rome, comme l'a affirmé le Premier ministre Paolo Gentiloni, de mieux gérer et si possible réduire le flux de migrants migrants arrivant en Italie et aussi de lutter contre les trafiquants d'êtres humains. Sur les 7 premiers mois de l'année, près de 94 800 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes, à peine plus que sur la même période de 2016. L'Italie s'active depuis des mois pour que l'approche sur l'immigration soit plus européenne et s'investit dans les pays de départ et de transit en Afrique pour réduire la pression sur son territoire.
Midi 39 sur France Culture, Bruno Le Maire à Rome aujourd'hui. Le ministre des Finances va tenter de faire accepter aux Italiens la prise de contrôle française des chantiers de STX à Saint-Nazaire. Il doit arriver cet après-midi pour rencontrer son homologue italien ainsi que le ministre du Développement économique. Bonjour Anne Lorchois.
Bonjour Antoine.
L'Italie, rappelons-le, a vivement réagi la semaine dernière à la nationalisation temporaire de ce chantier naval.
Oui, les Italiens qui s'apprêtent à recevoir Bruno Le Maire de pied ferme, c'est ce qui est affiché en tout cas. On rappelle que depuis le rachat de STX par Fincantieri, la France estime qu'elle n'a pas assez de garanties. D'abord que le groupe n'ira pas transférer un certain nombre de technologies françaises vers la Chine qui est actionnaire du groupe italien. Et puis que Fincantieri n'ira pas délocaliser ses emplois français si une crise survient. Côté italien, on se demande pourquoi la France, qui n'a rien trouvé à redire lorsque les chantiers de Saint-Nazaire étaient sous contrôle sud-coréen, s'alarme-t-elle soudain de voir des Italiens, des Européens, donc prendre le contrôle de ce fleuron de l'industrie navale. Le tout après que la France se soit achetée la moitié de l'Italie. Ça n'est pas moi qui le dis, mais l'ancien Premier ministre italien Romano Prodi, très énervé, dans un journal italien. Les ministres italiens en charge du dossier annoncent donc qu'ils resteront inflexibles. Le contrôle italien de STX Saint-Nazaire ou rien. Mais de ce côté-ci des Alpes, on avance un nouvel argument depuis hier. Pourquoi ne pas inclure les chantiers de Saint-Nazaire dans un nouvel ensemble européen qui pourrait fabriquer un Airbus des mers, soit un champion de l'industrie navale européenne sur une base franco-italienne. D'autant que sur ce marché stratégique, les Européens ne font pas le poids face aux concurrents anglo-saxons et que la demande internationale en frégates se développe. On ne parle plus là seulement de paquebots, mais de navires de guerre. Et puis, enfin, les deux spécialistes du sujet, Naval Group en France et Fincantieri en Italie, travaillent déjà ensemble. Voilà donc ce que va proposer Bruno Le Maire à ses homologues italiens tout à l'heure. Cette proposition suffira-t-elle à faire accepter la nationalisation des chantiers de Saint-Nazaire ? On en saura plus ce soir.
Merci Anne Lorchouin. Les chiffres des ventes de voitures publiées ce matin, elles sont en hausse de 10,93% sur un an. Mais les véhicules diesel continuent de perdre du terrain au profit des moteurs essence. Sur les 6 premiers mois de 2017, il y a eu quasiment autant de nouvelles immatriculations essence que gazole. L'an dernier, la part du diesel dépassait encore les 52% et même 72% en 2012. Ce déclin accéléré du diesel est dû notamment au scandale Volkswagen, mais a-t-il été anticipé par les constructeurs français? Oui, mais pas suffisamment, estime Bernard Julien. Il est maître de conférence à l'Université de Bordeaux, spécialiste de l'industrie automobile.
Ils ont globalement assez bien anticipé cette évolution, ne serait-ce que parce qu'ils cherchent à se mondialiser et que mondialement le diesel est plutôt minoritaire. Donc ils ont les technologies. Maintenant, les capacités de production installées en France et en Europe ne suffisent pas et ça les conduit soit à retarder leur livraison, soit à s'approvisionner éventuellement hors d'Europe. PSA, qui est en train de reconvertir son usine de moteurs, n'a pas encore terminé ce processus-là. Du coup, ils vont chercher des moteurs essence en Chine pour satisfaire provisoirement la demande européenne. Ils seront probablement au diapason de la demande en 2018-2019. Reste à savoir ensuite si les évolutions annoncées par Nicolas Hulot pour essayer de passer du thermique à l'électrique ne vont pas les mettre à nouveau dans une situation de ce type-là sur les motorisations électriques ou hybrides.
Bernard Julien, au micro de Valentine Joubin. Pas d'accord entre les députés et les sénateurs sur la suppression de la réserve parlementaire, ce qui signifie que les deux chambres vont devoir prolonger leur débat la semaine prochaine sur cette mesure phare de la moralisation de la vie publique. Une commission mixte paritaire s'est réunie aujourd'hui pour tenter en vain de trouver un accord, mais la droite majoritaire au Sénat s'est opposée à cette réforme. La SNCF a découvert l'origine de la panne qui perturbe sérieusement le trafic ferroviaire depuis dimanche dans l'ouest parisien. Mais la direction des trains est toujours difficile aujourd'hui. La circulation, des trains est toujours difficile du côté de la gare Montparnasse. Ce matin, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé qu'elle avait demandé aux dirigeants du groupe un rapport sur l'incident et on apprend à l'instant que la panne a été réparée et que le retour à la normale est prévu mercredi, selon la SNCF. C'est un record absolu de température nocturne qui a été battu cette nuit en France métropolitaine. Le mercure n'est pas descendu en dessous de 30,5 degrés la nuit dernière à Marignana, en Corse. Le précédent record avait été enregistré à Menton lors de la canicule de 2003. Selon Météo France, ce nouveau record est dû au Sirocco, un vent très chaud et sec. Attention aux orages, cet après-midi, ils vont toucher les Pyrénées et le nord-est du pays où il y aura même de la grêle. Partout ailleurs, c'est le soleil qui va dominer, température agréable. 19 à Cherbourg, 25 à Paris, 31 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. J'aurai le plaisir de vous présenter le prochain journal à 18h.